Résidence est un coup de pouce pour permettre d'aider des familles à retrouver un logement décent en l'équipant, d'accompagner des femmes seules avec enfants dans leur parcours de formation qualifiante, de permettre à des jeunes toxicomanes de s'en sortir, de favoriser le départ en camp d'été de jeunes de familles défavorisées et tout simplement d'aider telle ou telle association à faire face à un besoin immédiat, inattendu. Certaines demandes de soutien font l'objet d'un message radio, mais d'autres sont soutenues sans appel précis. Pour permettre à la Fondation Notre-Dame d'apporter un soutien à un plus grand nombre de personnes en difficulté, merci d'envoyer votre don à la Fondation Notre-Dame, 7 rue Saint-Vincent, 75 018, Paris. Vous pouvez également effectuer votre don directement sur le site fondationnotredame.fr. Radio Notre-Dame, Julien Chavanne.
Il est 10h30, Ecclesia Magazine, tout de suite avec Élodie Chapelle. Une question ce vendredi, comment devenir missionnaire à l'école de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, en fait Sainte-Thérèse demain, vous le savez, et de Bienheureux Jean-Paul II, eh bien c'est le thème de cette semaine thérésienne. Élodie Chapelle reçoit Sœur Thérèse Benoît, ancienne peintre et religieuse au Carmel de Marie Vierge missionnaire.
Ecclesia Magazine.
Ecclesia Magazine.
Élodie Chapelle.
Delphine est peintre. Après 8 ans de vie commune avec Philippe, avec qui elle était paxée, elle rencontre quelqu'un qui change sa vie, le Christ. Une conversion qui l'a conduit à tout lâcher pour devenir religieuse. Sœur Thérèse Benoît, au sein du Carmel de Marie Vierge Missionnaire, dans la Drôme. Une vocation qu'elle doit notamment à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Jean-Paul II. Comment être missionnaire à leur école? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec elle, à l'occasion de sa présence à Paris toute cette semaine, rue Jean de la Fontaine, dans le 16e arrondissement, chez les orphelins apprentis d'Auteuil, pour la semaine thérésienne.
Alors, j'ai vécu pendant pas mal d'années, en fait, comme artiste peintre sur Paris. J'avais pas du tout un voile bleu, et j'avais les cheveux dressés sur la tête, un peu rouge. Pétard, et j'espérais avoir les cheveux bleus. Et vous voyez, l'Esprit Saint l'a fait pour moi. J'ai maintenant un beau voile bleu.
Alors, la Delphine de l'époque a pas mal bourlingué. Votre vie, c'était le pinceau.
Voilà, j'ai vécu en fait pendant pas mal d'années entre mon atelier où je peignais, mon petit copain en fait, j'ai vécu en fait pendant à peu près 8 ans en concubinage avec un garçon. Et aussi, je donnais des cours de peinture. Donc, c'était les trois pôles, en fait, de ma vie.
Vous avez commencé à peindre dès votre enfance, dès l'âge de 6 ans.
Oui, même avant, en fait. J'ai toujours eu un crayon à la main. Ça a été mon guide, en fait. Et j'y vois aussi la main de Dieu. C'est vrai que la peinture, en fait, a été pour moi une sorte de bouée de secours, une bouée de sauvetage. Dès l'enfance, elle m'a permis de m'exprimer et elle m'a suivie tout au long de ma vie. En fait, ça a été vraiment... une béquille sur laquelle je me suis appuyée. C'est vrai que j'avais des problèmes de langage, j'étais un peu dyslexique, enfin j'avais des problèmes scolaires. L'institutrice avait remarqué que j'avais toujours un crayon à la main. Et donc ma mère, m'a sous les conseils de cet instit, m'a inscrite à un cours de peinture et ça ne m'a pas lâchée en fait jusqu'à mon entrée au Carmel, on va dire.
Alors vous peignez quoi?
Tout enfant, j'ai peigné figuratif, j'ai peint à l'extérieur, j'ai fait des natures mortes, mais aussi des paysages, enfin. Mais j'ai appris surtout, en fait, à la peinture m'a donné ce goût, quelque part, de la contemplation. Il y avait un certain silence, une certaine ascèse, en fait, une remise sans cesse du travail. Et j'ai eu une sorte de discipline intérieure, parce qu'on pense toujours que la peinture, on fait un peu, on lâche les couleurs comme ça, mais en fait, pour moi, ça a été vraiment un métier. Ça m'a construit intérieurement. Ça m'a donné non seulement donc une pratique, mais aussi ça m'a ouvert. J'ai eu la chance en fait d'avoir des professeurs qui m'ont guidée vers une intériorité, et puis aussi une grande authenticité.
C'est quoi l'authenticité?
Eh bien, une recherche de vérité. Une recherche de vérité qui m'a conduit d'ailleurs à Thérèse, que la première phrase que j'ai reçue à ma conversion, c'était la phrase de Thérèse, j'ai toujours cherché la vérité. Et c'était une phrase qui me hantait, c'est-à-dire être soi, voilà.
Vous preniez votre pinceau, vous étiez devant votre toile, et là vous disiez, bon alors, qu'est-ce que la vérité? Ok, on y va.
Non, c'est pas comme ça, mais... à ma conversion, donc parce que j'ai avant en fait d'avoir cet appel à la vie consacrée, en fait le premier grand moment, ça a été donc ma conversion. Ça s'est passé en fait quand même dans mon atelier, dans la peinture, où je me disais bon ben voilà, t'as un métier, tu as quelque part, tu sais peindre, mais qu'est-ce que tu veux peindre et qu'est-ce que tu veux dire? Et je sentais au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui me brûlait et qui me disait mais tu as quelque chose à dire au monde, mais quoi? Et à partir de là aussi, j'ai eu cette question que Pilate a posée à Jésus, mais qu'est-ce que la vérité? Et là, j'ai eu une sorte de crise existentielle. Je savais plus où j'habitais. J'ai eu un moment vraiment où j'ai tourné dans mon atelier comme un lion dans une cage, et je me disais mais quelle est ma vie? Quel sens? Je comprenais plus rien. Et surtout,
vous étiez encore avec votre ami là, hein. Vous viviez toujours encore avec lui. Hein.
Oui, je vivais encore avec lui, mais la peinture prenait tellement une grande place que bon, voilà, je m'accommodais en fait comme les jeunes aujourd'hui. Hein, je m'accommodais de cette vie, mais surtout il y avait cette soif de vérité et de me dire je sais peindre des pots de fleurs, mais j'ai pas envie de dire des pots de fleurs quoi. Je suis plus que ça.
Qu'est-ce qui vous a amené à avoir la foi ?
On a été baptisés, j'étais dans des écoles chrétiennes, mais c'est vrai qu'à mes 17 ans, quand je suis arrivée à Paris, en fait, j'ai tout lâché, quoi. Le Christ, Jésus, enfin, la graine de ma foi n'était pas assez plantée profondément pour que j'en vive, pour que je prie. Et donc, pendant une dizaine d'années, en fait, j'ai vécu vraiment sans le Christ, sans Dieu, sans aller à l'église. Enfin, j'étais vraiment... une païenne plus, quoi, enfin. Et donc, qu'est-ce qui m'a amené à la foi? C'est surtout une rencontre importante où j'ai une amie peintre, en fait, qui un jour m'a parlé de Jésus, et elle m'en a parlé comme un ami. J'étais vraiment étonnée. Enfin, elle m'a parlé au départ de la prière, quoi, et je sentais qu'il y avait une proximité, une familiarité avec Dieu qui me déconcertait. Je me disais, mais j'avais jamais imaginé ça, qu'en fait, on pouvait aussi être aussi proche, en fait, de Dieu. Je m'en rappellerai toujours, elle m'avait prêté sa maison dans le bocage normand, près de Lisieux, d'ailleurs, près de Thérèse. Parce que je devais faire une exposition, donc elle m'avait prêté sa maison pour travailler, enfin bon. Et là, avant de partir, elle me parle de Jésus, la Trinité, etc. Enfin bon, et j'ai rien compris. À un moment donné, j'ai décroché par rapport à ce qu'elle m'a dit. Mais je me suis dit intérieurement, c'est ça la vérité, et c'est dans cette direction que tu dois chercher. Elle m'a laissé sa maison, et donc il y avait plein de magnificates. La lettre en fait de Jean-Paul II aux artistes que j'ai dévoré, et puis il y avait des livres de prières que j'ai dévoré aussi, et je me disais mais c'est pas possible, mais ça me faisait jubiler quoi, il y avait quelque chose de, et puis une ouverture en fait petit à petit, comme si mon cœur s'agrandissait. Et puis la deuxième personne en fait qui m'a aidée, c'est que j'ai rencontré un prêtre, le père Louis Pelletier, qui est devenu après mon père spirituel. Et donc je suis allée comme une aveugle à l'école cathédrale, je connaissais rien, j'avais jamais remis les pieds dans une église sauf une fois à Notre-Dame des Victoires, donc là encore Thérèse. La dame à l'accueil me dit « Quelle est votre paroisse ?» Alors j'étais un peu dépitée, et puis... Enfin bon, et j'ai assisté au cours du père Louis Pelletier, et j'ai pas loupé un seul cours de l'année.
Cours de quoi ?
Ça me concernait pas du tout, c'était pour les catéchistes, en fait pour l'accompagnement je crois spirituel et les catéchistes, enfin bon... Mais j'ai trouvé ma place quelque part. J'ai senti qu'il fallait que je sois là, mais je sais pas, j'ai suivi. Mais ce qui m'a touchée, c'est que dès le premier jour, en fait, il nous a posé la question « Savez-vous quel est le programme de l'année ?» Alors moi, je me creusais la tête. Eh bien, c'est la sainteté, être des saints. Et j'avais jamais pensé à ça. Donc ça m'a vraiment bouleversée, mais au plus profond de moi, quoi. J'avais jamais imaginé... Et donc je suis rentrée à vélo chez moi, j'ai vu Philippe, donc la personne avec qui je vivais, et je lui dis mais c'est génial, et je lui raconte, et puis je lui dis tu sais qu'est-ce que c'est le programme de l'année? Alors je lui dis c'est être des sommes. Alors là il a levé les yeux au ciel en disant mais ça y est Delphine encore, voilà, elle délire, elle est devenue folle. Et puis j'ai compris en fait dans mon cœur que c'était mon histoire, et qu'à partir de là en fait je...
j'avais une nouvelle vie qui commençait en fait.
Ouais, mais que j'étais pas obligée de lui partager. Ouais. Et que c'était un chemin intérieur et c'était une histoire cachée avec Jésus, quelque chose de voilà, Thérèse dit Jésus est un trésor caché. Pour trouver quelque chose de caché, il faut se cacher soi-même. Et j'avais vraiment cette notion-là de se cacher. Déjà, se cacher, je l'avais dans mon atelier. J'aimais beaucoup cette idée d'être caché. J'ai eu vraiment comme un débordement d'amour, quoi. Mais c'était... j'aurais serré la terre entière dans mes bras, quoi. C'était vraiment... Et donc, je me suis dit, à un moment donné, ben, puisque je vis avec Philippe depuis pas mal d'années... Il m'aime, je l'aime, nous nous aimons. Eh ben, c'est évident qu'il faut que je me marie avec lui. Donc ça, c'était la première constatation. Mais j'ai été très bien guidée parce que tout de suite, je m'en suis remis à la prière. Et j'ai parlé à Jésus en tout simplement en lui disant, ben voilà, si c'est vraiment lui, si c'est l'homme de ma vie, si je dois vraiment me marier avec lui, confirme-moi dans mon cœur que c'est vraiment lui. Et là... ça a été surprenant parce que je m'y attendais absolument pas en fait. Tous les jours, le Seigneur me montrait que c'était pas lui.
Alors vous deviez être dans une énorme désolation, non ?
Eh ben c'était contradictoire parce que en fait j'avais une joie complètement dingue qui m'habitait. Et puis cette douleur de séparation, ça m'a tellement saisie et tellement enveloppée. Parce qu'en même temps, il y avait une grande douceur malgré tout, et puis j'étais quand même portée. Et puis petit à petit, en fait, je vivais quand même des sacrements. J'ai quand même ordonné ma vie, en fait. Ce qui est très important, qui me portait aussi, c'est que j'ai eu ce cœur qui s'agrandissait, mais aussi dans mon travail en peinture, j'ai eu autant avant ma conversion, c'était très difficile pour moi de travailler en peinture et je réduisais les formats jusqu'à devenir un timbre-poste. Enfin, j'exagère, mais c'était laborieux, j'avais du mal. Et après cette relation intime comme ça, cette prière et cette remise de moi chaque jour à Jésus, il y a eu vraiment, mais c'était miraculeux. J'ai eu une production mais incroyable en peinture. J'ai décuplé ma créativité, mais en un instant, quoi. C'est là que je vois qu'un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. C'est complètement dingue, quoi. Même ça faisait peur à mes voisins d'atelier qui me voyaient avec un œil. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'elle a bu? Qu'est-ce qu'elle a mangé? La potion magique, je comprends pas. Et donc, c'est vrai que... Et comme la peinture a quand même été ma passion, ça me dévorait. Je mangeais peinture, je buvais peinture, je dormais peinture. Enfin, j'étais vraiment, dans la couleur. C'est que donc ça a pris vraiment beaucoup beaucoup de place aussi. Donc peut-être que je sais pas comment le Seigneur m'a, voilà, il m'a appâté d'une certaine façon, je sais pas, enfin il m'a donné en tout cas plein de petits cadeaux, plein de petits de petites grandes grâces de ce genre.
Vous avez donc décidé de quitter votre ami, hein.
Voilà, mais j'ai mis un an en fait pour le quitter, un an et demi peut-être, et ça a été très très douloureux parce que je voulais le quitter mais je pouvais pas, et je sentais qu'en fait il y avait un sort d'impossible, et j'ai vraiment senti le doigt du Seigneur qui s'est posé sur moi et qui m'a fait traverser cette mer rouge, parce qu'on était vraiment liés affectivement, on s'aimait beaucoup et humainement on s'appréciait énormément et on s'apprécie toujours beaucoup. Et donc après ça, j'ai vécu dans mon atelier, et donc là j'ai beaucoup beaucoup travaillé en peinture, et à la suite de ça j'ai fait aussi pas mal d'expositions d'art contemporain. Et notamment une grande exposition, un grand salon en fait d'art contemporain à la Villette à Paris. Et à la suite de ça, donc il y a des galeristes en fait qui m'ont contacté, notamment à Berlin, à Zurich. Et donc je devais honorer en fait des expositions. Et donc durant l'hiver en fait 2004, donc j'avais un projet, etc. Et là, curieusement, tout d'un coup, plus rien. J'avais l'impression d'avoir les bras coupés, je pouvais plus travailler. J'étais dans le noir, quoi. Je comprenais rien. Et je comprenais pas pourquoi tout d'un coup, le Seigneur m'enlevait ça. Enfin, pourquoi tout d'un coup... Et j'ai vraiment touché aussi du doigt le lien entre créativité et Esprit Saint. On est mu par l'Esprit Saint. Je l'ai touché vraiment. Et donc, l'été 2004, j'étais vraiment dans un désarroi terrible. Et je me suis dit, je vais partir à la Flatière me reposer. Donc, je suis partie une semaine. Et à la suite de ça, je suis allée aussi une semaine à Lourdes en prévision d'aller à la rencontre du pape le dimanche. Et donc là, pendant ces deux semaines, je n'ai pas dormi un seul jour. Donc,
15 jours sans dormir.
Grosso modo. Et au fil des jours, je sentais une sorte de fatigue. En même temps, j'étais quand même portée parce que 15 jours sans dormir, voilà. En fait, je suis née un jeudi 12 août et j'ai fêté mes 33 ans un jeudi 12 août, donc à Lourdes. J'ai contacté absolument personne. J'étais vraiment, c'était Jésus, Marie, les anges, les saints et moi. Et donc j'étais à la grotte et je suis née à 14h. Ça c'est un détail, mais des fois le clin d'œil. Je suis sortie en fait des piscines à 14h. Alors je comprenais toujours pas parce que je dormais toujours pas. Et le lendemain, donc le vendredi 13, alors maman a toujours redouté que je naisse un vendredi 13. Donc là je suis renée d'en haut, comme dit Jésus à Nicodème. Et donc là, il y avait une cérémonie pénitentielle. Il y avait plein de prêtres sur le parvis. Et donc,
voilà. Vous vous confessez.
Et là, je me confesse. Et voilà, il y a un moment de grâce qui arrive. Le prêtre me dit quelque chose de tout simple, en fait. Il me dit, mais est-ce que vous avez déjà pensé à la vie consacrée? Ça m'est tombé dessus comme ça. Et alors, à la fois, je lui disais oui et non, parce que j'y pensais pas vraiment. Et en même temps, rétrospectivement, en fait, quand j'ai eu ma conversion, c'est vrai que la première chose qui m'est venue, c'est que c'était tellement fort que j'ai dit à un ami artiste, je lui dis, tu vois, c'est tellement fort que si Jésus me demandait de le suivre dans la vie consacrée, eh bien, je le suivrais. Et cet ami artiste, qui était un ancien prof à moi, était complètement révolté. Il m'a dit, mais ta vocation, c'est la peinture, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu vas pas, mais n'importe quoi, bon. Et donc du coup, en fait, finalement, je l'ai enfoui en moi, j'ai jamais plus pensé.
Et là, ça rejaillit comme ça.
Et ça rejaillit, et comme une évidence, et comme quelque chose qui m'était donné, mais qui était de toute éternité, c'était comme si ma place était tout d'un coup ouverte, et puis une grande, grande paix m'a envahie. Et puis donc le soir même, évidemment, j'ai pu dormir. Et surtout, oui, c'est ça, c'est qu'en fait, j'ai supplié Marie à la grotte de me dire quelle serait ma communauté, en lui disant, ben moi, je connaissais très mal l'Église, alors je lui ai dit, ben écoute, je veux bien être une petite sœur, mais je veux pas être une petite sœur frustrée. Alors, tu t'occupes de moi. Et en fait, elle s'est bien occupée de moi, puisque deux jours après, donc le dimanche 15 août, sur la pelouse de la messe, en fait, du 150e anniversaire de l'Immaculée Conception et en la fête de l'Assomption, en fait, j'avais rejoint le diocèse de Paris. J'étais juste à côté, en fait, du Carmel, et je suis allée les voir. Il se trouve que quand je suis rentrée à Paris, ce qui revenait en fait dans mon cœur sans cesse, c'était le Carmel. Je connaissais pas la spiritualité. Moi, j'étais vraiment en dehors de l'Église, donc je connaissais pas toute cette richesse en fait, ce trésor en fait qui est en Église. Moi, j'ai mis quand même un an aussi encore pour me décider, parce que j'avais cette grande joie en moi de cet appel qui était évident, qui était clair, net. C'était un oui, quoi, un vrai oui. Et en même temps, j'avais encore cette casserole de la peinture. Et donc, je vivais encore dans mon atelier. Et là, j'ai eu beaucoup de mal, en fait, à je comprenais pas. J'avais encore cette sensation de bras coupés. J'avais rien que de penser à quitter la peinture. Des fois, j'avais des nausées, j'avais envie de vomir, j'étais pas bien. Enfin, et il se trouve que donc dans l'hiver, j'ai fait une agapée, qui est une retraite en fait de guérison intérieure. Puis après, bon. Enfin, c'était pas si évident que ça. Et il se trouve que le 2 avril, le jour de la mort de Jean-Paul II...
Et 2 avril 2005.
Voilà. Ça a été clair, tout d'un coup. C'était comme si la sensation de bras coupés et de nausée s'effaçait totalement. Et j'ai su que je pouvais dire un oui total. Un oui total et plénier.
Plein.
Plein.
Vous dites oui à Jésus définitivement pour entrer dans cette communauté que vous aviez rencontrée sur l'esplanade le 15 août à Lourdes. On ne l'a pas précisé, mais c'était le Carmel de Marie Vierge Missionnaire. Hein. Ce n'est pas le Carmel des Carmélites lambda. C'est cette petite communauté qui est née il y a quelques années. Alors, de ce oui total à aujourd'hui, voilà, il s'est passé beaucoup de choses. On vous voit aujourd'hui avec votre voile, votre habit de religieuse, hein, de sœur du Carmel de Marie Vierge Missionnaire. Vous êtes là cette semaine pour témoigner auprès des personnes qui le souhaitent, prier avec elles pour les entraîner dans ce chemin autour de la mission avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Jean-Paul II. Alors, ces deux figures sont importantes pour vous. Jean-Paul II, donc il y a des coïncidences, hein, les dates ne sont pas du hasard. Qui est-il pour vous ?
Je sens que mon oui total à Jésus est lié à Jean-Paul II parce que je ne peux pas expliquer. Il a été là pour m'enfanter, en fait, et pour me dire tu peux y aller, vas-y, confiance, n'aie pas peur.
Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, on n'est pas loin de ses reliques là. Elle fait partie des, c'est un peu l'une des mères de votre communauté. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous au quotidien ?
Elle a vraiment une maternité en fait. C'est une petite maman. Thérèse, elle me donne tous les jours cette intelligence spirituelle quoi. Elle me donne les clés de ma vie spirituelle. Elle me dit regarde pas les apparences, va plus loin, vis cette vie cachée, cette vie d'amour, cette vie, cette petite voix d'enfance faite de confiance et d'abandon, mais dans cette réalité du réel où voilà, on n'est pas obligé de faire des grandes choses et c'est dans un petit sourire, un regard, une petite parole.
Certains qui vous écoutent sont peut-être un petit peu, alors je pense à des artistes notamment qui sont passionnés de peinture, ils se disent peut-être mais c'est révoltant, mais pourquoi lâcher un tel talent, un don que le Seigneur a pu lui donner pour entrer dans une communauté ?
Jésus est plus grand que tout ça. Je sais que quand j'ai appris en fait à mes élèves, je donnais des cours de peinture en fait en banlieue parisienne dans des centres culturels à des adultes. Et donc quand j'ai annoncé la nouvelle de ma vie consacrée, tout le monde a levé les yeux au ciel en disant, même en criant, en disant mais c'est plus fort que la peinture. Et j'ai dit oui, Jésus est plus fort que la peinture. Et je dirais mais il est c'est pas comparable quoi. C'est comme
c'est plus fort. Mais qu'est-ce qui vous donne Jésus pour être heureuse à ce point-là?
L'amour, tout simplement, il me remplit. J'ai l'image en fait d'un flot débordant d'amour, d'une source en fait incessante et qui ne tarit pas et qui déborde quoi. Et cette source en fait, on a envie de la donner quoi, parce qu'on peut pas garder pour soi en fait quelque chose qui nous remplit autant et qui déborde quoi. La coupe est pleine, alors il faut qu'elle jaillisse, qu'on transmette cette flamme. Je sais pas, quand on a touché du doigt en fait cet amour de Jésus, on peut pas se taire, on peut plus vivre comme avant. Et la peinture me paraît vraiment pas dérisoire, mais c'est pas comparable. Il y a une démesure.
La peinture était encore un mode d'expression et le silence est encore presque plus grand que la peinture.
Mais il se trouve que par rapport au silence, en fait, j'ai eu toute une évolution parce qu'en peinture, je vivais déjà d'un certain silence. Ouais. Or là, maintenant, je vis d'un silence en fait qui est vraiment communion. Alors qu'avant, c'était un silence introspectif, tandis que là, c'est un silence qui m'ouvre au monde en fait. C'est pas du tout le même silence. Et c'est vrai que j'avais tous les ingrédients dans la peinture en fait d'une contemplative entre guillemets, enfin de quelqu'un qui était entre guillemets. Tout le monde me disait mais de toute façon, on avait toujours vu que t'étais une mystique. Alors je dis tu rigoles ou quoi ? Mais en fait, il y avait tous les ingrédients, mais qui étaient tournés vers moi.
Une satisfaction personnelle.
Voilà, c'était un amour qui s'auto-financer quoi, enfin. Tandis que là, il y a vraiment une ouverture, une communion. Et c'est vrai que quand on est en désert, en fait, au Carmel, sur notre petite montagne, eh bien, on est en communion. Moi, je suis en communion vraiment avec tous les artistes de la terre. Et vraiment, je sais qu'aujourd'hui, ma mission est de prier vraiment pour les artistes qui galèrent, pour tous mes amis que j'ai laissés au ventre de la baleine. Et pour tous ceux qui cherchent la vérité, qui ont soif d'amour.
Il y a une phrase de Jean-Paul II ou Sainte Thérèse que vous voudriez donner aux personnes qui vous entendent aujourd'hui ?
Alors, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que Jean-Paul II, en fait, il y en a une qui m'a beaucoup, enfin, qui m'a touchée parce que je sens qu'en fait, je suis une enfant de Jean-Paul II, de sa génération, et que je suis un fruit vraiment, je pense, de toute cette prière au niveau des JMJ, de toute cette jeunesse. Il a vraiment soulevé une jeunesse, et il a dit ces derniers mots avant de s'en aller. Je vous ai appelé, vous êtes venu, et je vous remercie. Quelque chose comme ça.
Alors, si on veut vous rencontrer, on peut vous rencontrer quand même, on peut rencontrer votre histoire en tout cas, prochainement, parce que toutes vos peintures, hein, les peintures qui vous restent, vous allez les vendre au profit d'un grand projet de votre communauté qui construit une chapelle.
Oui, depuis l'année 2008, on a lancé une souscription pour un projet de construction d'une chapelle, enfin d'une église plus exactement, et d'ermitage, puisqu'on est voué en fait à une vie contemplative semi-érémitique en ermitage. Et donc, pour vivre pleinement en fait notre appel, notre charisme, on a vraiment besoin en fait de ces murs, de ces constructions. Et donc m'est venue l'idée, que j'ai remis en chapitre évidemment, m'est venue l'idée que de vendre en fait ces toiles que j'avais faites. En fait, j'ai toute une série de toiles que je n'ai pas exposées et que j'avais produites juste avant mon entrée au Carmel,
dont vous avez intitulé la compile, entre guillemets, « Appeler des ténèbres à son admirable lumière », un extrait de l'épître de Saint-Pierre. Alors cette exposition, on arrive au terme de cette émission, sœur Thérèse Benoît, cette exposition elle aura lieu à l'ancien cloître des Billettes. Hein.
Oui, alors ça me touche beaucoup parce que c'était un ancien Carmel qui est maintenant en fait géré par l'église protestante luthérienne. Et donc ça me met en joie parce que déjà c'est une communion en église, déjà ça fait œuvre pour moi d'unité, il y a quelque chose de voilà au niveau du projet. Et puis ensuite c'est un Carmel, et un ancien Carmel pardon, où il y a eu un miracle eucharistique.
C'est une page qui se tourne. Est-ce que vous comptez pourquoi pas peindre les fresques de votre future église? Est-ce que vous allez peindre au profit de votre communauté?
Ah ça je sais pas. Je ferai tout ce que le Seigneur me demandera. Que sa volonté soit faite, que ta volonté, Seigneur, soit faite.
Voilà, sœur Thérèse Benoît exposera ses œuvres à l'ancien cloître des Billettes dans le Marais du 26 mars au 9 avril. Des œuvres qui seront vendues donc au profit de la communauté pour la construction de la chapelle du Carmel de Marie Vierge Missionnaire dans la Drôme. En attendant, la semaine thérésienne se poursuit jusqu'à dimanche au 40 rue Jean de la Fontaine dans le 16e arrondissement chez les orphelins apprentis d'Auteuil.
Notre-Dame a 30 ans, un nouvel élan. Venez participer en direct aux émissions spéciales de Radio Notre-Dame. Souvenirs, débats, questions, perspectives. Venez partager 3 jours de direct avec vos animateurs et journalistes du 10 au 12 octobre prochain, de 9h à 18h, à la Maison de la Conférence des évêques de France, 58 avenue de Breteuil, Paris 7e. Entrée libre. Renseignements et programmes sur le site internet de la radio ou au 01 56 56 44 44.
Ce mois-ci, le magazine Diapason rend hommage à Vladimir Horowitz, un géant du piano dont l'art ne cesse de nous fasciner. Également au sommaire de ce numéro, un grand dossier sur Aristide Cavaillé-Coll, facteur d'orgue génial dont on célèbre le bicentenaire. Diapason, c'est aussi un CD événement, le célébrissime premier concerto de Tchaïkovski dans une interprétation phénoménale d'Horowitz. Enfin, en cadeau, ne manquez pas notre guide exclusif qui recense tous les concerts de la saison 2011-2012. Avec Diapason, osez être classique.
Pour tout savoir de l'actualité des arts et de la culture, retrouvez tous les lundis à 7h09 et 17h52 sur Radio Notre-Dame, la chronique du père Michel Brière.
Bonjour, ici Edith Walter, l'agenda musical. Je vous retrouve pour vivre la musique avec ceux qui la font. Qu'ils soient pianistes, violonistes, violoncellistes, flûtistes, clarinettistes, chefs d'orchestre, metteurs en scène, je les reçois tous les vendredis à 16h. Ils vous parleront de leur prochain concert, de leur dernier disque, de l'opéra qu'ils vont diriger. Et ils vous diront aussi leur joie, leur espoir, leur solitude, leur réussite, leur passion, leur amour de la musique qu'ils souhaitent partager avec vous, ainsi que cette musique que nous écoutons ensemble.